Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du podcast des maternelles, le podcast France Télévisions. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui, on va entendre un témoignage extraordinaire. Celui de Karine, qui est redevenue maman par amour pour son nouveau compagnon. Elle a fait un nouvel enfant avec son nouveau compagnon, sachant que Karine avait 48 ans. Oui, c'est possible, bien sûr, messieurs, dames, tout à fait. Vous allez donc pouvoir écouter Karine, et après nous serons avec un gynécologue qui fait autorité, le professeur Israël Nizan. C'est parti.
Bon, alors là, l'histoire que vous allez entendre, c'est la preuve qu'il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Bonjour à vous, Karine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous avez deux garçons d'une première union. Mm-hmm. Un qui s'appelle Karl, qui a 22 ans. Gabriel, qui a 18 ans. C'est et vous aviez tiré un trait sur l'idée de faire un troisième enfant. Et puis, bam, vous tombez amoureuse de Nicolas. Voilà, comme voilà. Ça. Les aléas de la vie. Nicolas, il a 14 ans de moins que vous. Il n'a pas d'enfant. Il a très, très envie d'avoir des enfants. Mm-hmm. Et bah, tout va basculer avec cette relation. Après un parcours que vous allez nous raconter, vous avez finalement donné naissance à Léonard, qui a aujourd'hui 16 mois, et vous aviez 48 ans. Oui. Donc, grossesse tardive, tardive. Karine, après, déjà, est-ce que, quand vous avez eu vos aînés, est-ce que vous aviez envie d'un petit troisième à l'époque ?
À l'époque, oui. Au tout début, idéalement, j'aurais bien aimé avoir trois garçons. Et puis, Gabriel est né... Il a eu un comportement... En fait, c'est un enfant très sensible. Mmh. Et du coup, il était très colérique. Et moi, j'avais un petit peu de mal à gérer ça. En ayant un caractère assez fort et mis des règles très strictes. Et puis après, on a eu des complications familiales. Et pour le coup, c'est tombé à l'eau. Et puis je me disais, deux enfants, c'est bien.
C'est ça. Donc vous avez fait un peu votre deuil de ce troisième enfant. Et puis il y a 8 ans, on est en 2014, vous vous séparez du père de vos aînés. Mmh. Ils ont à ce moment-là 10 et 14 ans. Comment est-ce que vous avez rencontré votre nouveau conjoint Nicolas, qui a donc 14 ans moins que vous ?
Alors donc j'étais présidente, j'avais monté un club de baseball du côté de Lyon. Et il a fait partie des joueurs recrutés qui sont venus nous rejoindre. Et puis voilà, on est devenus amis, très amis. Et puis quand j'ai divorcé, je me suis dit, je l'aime beaucoup, mais c'est pas raisonnable, c'est pas bien. Donc j'ai refoulé beaucoup de choses.
Il faut dire qu'il avait 28 ans et vous 42.
Et voilà, c'est ça. Et du coup, ça se faisait pas du tout. Et puis, c'est arrivé, voilà.
De toute façon,
tombé amoureux. Ça
parce que c'était
pas.
Lui, parce que c'était vous.
Voilà.
Il n'avait pas d'enfant, donc à 28 ans. Qui a lancé la discussion sur le sujet ? Est-ce que déjà c'est quelque chose qui tout de suite vous a un peu travaillé ?
Oui, parce que je me suis dit de toute façon c'est une histoire qui n'ira pas au bout parce que on a une grosse différence d'âge. Et un jour dans la voiture il m'a lancé et toi tu te verrais avoir à nouveau un enfant ? Et là je m'attendais pas du tout à la question et je lui ai dit écoute. Enfin, actuellement, à l'heure qu'il est, ça faisait peut-être 6 mois qu'on était ensemble. Je lui dis, non, je pense pas. Enfin, ça dépend du contexte. Mmh. Et puis voilà. Et puis.
Vous avez changé d'avis à 43 ans.
Oui.
Qu'est-ce qui a été le déclic ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit à un moment, allez, j'y vais ?
Beaucoup d'amis me posaient la question. Et puis aussi, on a eu une conversation un jour suite à un quiproquo sur un message. Les fameux petits textos qu'on s'envoie, où il a cru que je rompais. Et moi, ce n'était pas du tout ce que j'envisageais. Et du coup, de cette discussion, il a ouvert son cœur, en fait. Il a expliqué qu'en fait, il était très attaché à moi et que de toute façon, pour lui, c'était avec ou sans enfant, son choix, c'était moi. Ce qui m'a beaucoup émue. Et puis finalement, il m'a dit que même si on devait adopter, il accepterait mon choix si je voulais pas faire d'enfant. Et je lui ai dit, on peut peut-être essayer, finalement.
Si vous êtes très honnête, est-ce que c'était vraiment une envie d'enfant à ce moment-là ou c'était la peur de le perdre ?
Non, c'était vraiment une envie d'enfant. Parce que petit à petit, en fait, à partir de cette question-là qu'il m'avait posée en voiture, ça m'a beaucoup travaillé, en fait. Et plus ça allait, plus j'avais envie de construire quelque chose avec lui.
Alors, avec des cycles réguliers, vous vous êtes dit, il n'y a pas de raison que je ne tombe pas enceinte naturellement. Mmh. Puis les mois, les années sont passées. À 45 ans, toujours pas de grossesse. Mmh. Qu'est-ce que vous disiez votre médecin à l'époque ?
Il me disait que j'avais une chance d'avoir des enfants toutes les 15 ovulations.
Ah ouais.
Ce qui ne fait pas beaucoup, surtout si à un moment on rate le coche, pour une raison ou pour une autre. Et du coup, on a décidé de se faire aider.
Donc d'entrer dans un parcours PMA, quoi.
Oui, sauf qu'à 42 ans, pour le corps médical français, on est un peu obsolète.
Donc, ça, on vous a dit quoi? On vous a dit à 42 ans, on ne vous prend pas en charge?
On ne vous prend pas en charge, mais j'ai dit je ne veux pas de prise en charge, en fait. Je prendrai tout à ma charge, je paierai s'il faut payer. Et ils m'ont dit mais non, mais même avec ça, on ne le fera pas. Il faut partir à l'étranger.
D'accord, donc c'est ce que vous avez fait.
Voilà, et puis on m'a même conseillé un don de vos sites, et c'est ce qu'on a fait, effectivement.
D'accord, alors vous êtes partie en Espagne, donc parcours de PMA avec don de vos sites. Mmh. Vous êtes tombée enceinte juste avant vos 48 ans.
Oui.
Comment ont réagi vos proches?
Ils ont vu, on n'a pas gardé secret notre parcours, donc ils étaient tous très heureux pour nous. Ma maman était très heureuse pour moi, si ce n'est qu'elle a eu peur quand même pour moi, parce que... À 47 ans, quand on tombe enceinte, la condition physique n'est pas la même. Même si je me sentais extrêmement bien, si j'étais en grande forme, on sait qu'on sera plus fatigué, puis on sait qu'on a plus de risques médicaux. Donc,
Là, personnellement, j'ai cet âge-là. Si je devais tomber enceinte, je crois que vous ne me verriez plus pendant 9 mois. Je suis au lit. Hein, vous
voyez, il y a eu le Covid. J'étais confinée, j'ai pu me protéger un petit peu.
Oh là là. Vous l'avez dit à vos enfants aussi quand même, parce qu'on parle d'entourage. Vous aviez vos deux grands-enfants.
Oui. Alors, ils l'ont vraiment très, très bien pris, parce qu'à distance, ils suivaient. Ils ne me posaient pas trop de questions, mais ils savaient dans le parcours dans lequel on était rentrés. Et en fait, Gabriel, au tout départ, quand je lui ai dit, c'est mon deuxième, donc quand je lui ai dit qu'on voulait faire un bébé, il m'a dit « heureusement que tu me l'as dit avant, parce que je l'aurais très mal pris à la prendre de but en main. »
Bien sûr. Donc, vous avez eu peur pendant la grossesse quand même de le perdre, parce que ce qu'on appelle quand même une grossesse très précieuse, là, pour le coup.
J'ai eu peur au début, et puis en fait, j'ai eu très vite des nausées qui m'ont fait comprendre qu'il était bien accroché.
Vous avez une surveillance particulière quand même ou pas?
Oui.
Du fait
de
votre âge.
J'avais des rendez-vous mensuels et puis surtout sur la fin de la grossesse en fait. Le dernier mois, j'avais deux monitoring par jour à domicile avec des prises de tension et puis j'ai eu beaucoup de prises de sang, de choses comme ça. Surveillance du diabète gestationnel aussi parce que j'étais à la limite. Mm-hmm. J'ai surfé avec la limite, donc du coup fini les pizzas hein, forcément. mais ça s'est super bien passé, en fait. Donc,
Et l'accouchement, il est né le 6 octobre 2020, Léonard.
Voilà.
Là, à ce moment-là, vous avez 48 ans. La rencontre avec votre bébé, 17 ans après votre dernier accouchement, comment ça s'est passé?
C'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Apparemment plus pour le papa, parce qu'au moment où il a entendu son cri, en fait, il a eu une montée comme ça d'émotions et il a presque fait une syncope. Du coup, ils l'ont allongé, les pieds levés contre le mur.
Les pieds sur l'étrier.
Voilà, c'est ça. Et du coup c'était vraiment très, très fort, parce qu'il a été vraiment très, très désiré. Les autres étaient très désirés aussi. Mais alors, pour Léonard, on s'est vraiment donné un mal fou. C'est vraiment l'accomplissement.
C'est ça.
La réalisation de notre...
Et alors, je ne sais pas, 48 ans, on rentre à la maison, vous devez vous remettre dans les couches, les nuits et tout. Vous avez tenu le choc?
Super bien. Bon, alors, le papa est très investi aussi. Et puis, c'était tellement une évidence que du coup, ça s'est passé tout en douceur. Grâce aussi maintenant au cododo, parce qu'avec les nouveaux cododo, le bébé dort vraiment collé à notre lit et pour le coup, on le prend, on allaite et on peut se rendormir plus facilement.
Alors aujourd'hui, en plus, la fratrie a tissé des liens très forts, donc tout le monde est très attaché à ce petit bébé.
Oui, oui, ça a été plus distant au départ avec Gabriel et au final, je pense que c'est eux qui sont presque le plus proches maintenant, parce qu'il s'investit beaucoup, beaucoup avec ce bébé. Et Carl, lui, est complètement gaga de son petit frère aussi. Donc, ça se passe très, très bien.
Ces grossesses tardives, évidemment, ça pose plein d'autres questions. Il y a évidemment la question de la grossesse, de tenir, de l'accouchement, des nuits blanches, etc., que vous avez très bien vécu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous angoissent pour l'avenir ?
On y pense forcément parce qu'on a une maman plus âgée et du coup on se dit que peut-être qu'il perdra sa maman un peu plus tôt que les autres. Mais moi j'ai perdu mon papa, j'avais 24 ans. Donc on peut perdre ses parents à tout âge. C'est vrai que là on augmente un petit peu les chances. Ce que j'essaie de faire.
Vous serez peut-être centenaire,
J'espère. J'y compte bien. Et du coup j'essaie de faire en sorte que le papa s'implique beaucoup. Il est très impliqué et donc il tisse un lien très fort avec son fils. au cas où moi il m'arrive quelque chose, je sais qu'il sera là. Et puis
c'est quelque chose qui vous angoisse vraiment, genre à vous réveiller la nuit? Non.
Pas du vraiment. Tout, pas du tout. Je me suis même préparée au regard des autres. Le côté, c'est ta grand-mère qui vient te chercher quand il sera au collège ou quelque chose comme ça. On essaye de se blinder. Je ne suis pas sûre que je le serais, que je serais totalement prête, mais j'y ai pensé en tout cas. Voilà, il faut l'accepter, c'est comme
ça. Donc, vous avez 3 garçons aujourd'hui. Vous profitez différemment, j'imagine, de cette 3e maternité.
Oui, on sait que c'est la dernière. On sait que c'est vraiment la toute dernière. Quand on a 35 ans, qu'on fait son dernier... ou même 38 ans, enfin, on a encore, biologiquement, on sait qu'on peut potentiellement encore en avoir, même si on se dit c'est terminé. Mais là, moi, je sais que c'est vraiment mon tout dernier. Donc, j'essaye de vraiment de capter chaque instant et je profite, vraiment, je profite.
Le professeur Israël Nizan, bonjour professeur,
bonjour.
Qui est gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité de l'hôpital américain à Paris. Vous êtes aussi et notamment co-auteur du livre « Plus de 100 questions, grossesse et accouchement », c'est chez Emma Édition. Alors on l'a vu, Karine s'est vue refuser une PMA en France, elle avait 42-43 ans, donc elle est allée faire un don d'ovocytes en Espagne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la politique en matière d'âge d'une aide à la procréation en France ?
La politique, c'est deux choses, c'est la partie technique et la partie remboursement des frais.
C'est ça.
Au 43e anniversaire, il n'y a plus de prise en charge de l'aide médicale à la procréation dans notre pays.
Du tout.
Du tout, plus de prise en charge. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire, mais la prise en charge est arrêtée. Ceci est expliqué par le faible résultat des tentatives à cet âge-là. C'est divisé par 20.
Voilà.
Au-delà de 42 ans, et ça se divise encore par 20 au-delà de 43 ans, autant dire que l'énorme effort d'injection d'hormones, etc., est considéré comme néfaste par rapport aux chances possibles de grossesse. Ce n'est pas seulement un effort financier, mais c'est aussi un effort en santé pour la patiente. Et il y a même pas mal de professionnels, y compris dans mon équipe, qui disent « mais pourquoi on accepte les femmes de plus de 42 ans ?» Tellement les résultats ne sont pas bons au-delà de 42
ans. Ce n'est pas une question d'éthique, c'est vraiment une question de santé.
C'est vraiment une question de santé, ce n'est même pas une question d'économie, c'est vraiment une question de santé. Les ovules d'une femme, elle les a depuis qu'elle était embryon, et la vitesse d'obsolescence est variable d'une femme à l'autre, en fonction d'une trentaine de gènes qui agissent sur la vitesse d'obsolescence. Ainsi, certaines femmes à 25 ans n'ont plus un seul ovule vaillant. Et d'autres, à 45 ans, on a encore quelques-uns. Donc, cette vitesse d'obsolescence, nous ne savons pas la prédire. Mais ce qu'on sait, c'est que statistiquement, après 43 ans, les chances en PMA deviennent ridiculement basses.
Alors, on a reçu beaucoup de questions sur ces grossesses tardives et notamment sur la manière dont elles se déroulent quand elles sont là. Est-ce qu'elles sont compliquées ou non ? On a reçu notamment une question en vidéo de Gillian pour vous regarder.
Bonjour. Alors, je viens de Suisse avec mon fils Jean, là. Et puis, j'ai une question pour vous. C'est savoir si y a plus de complications pendant la grossesse, donc quand on est enceinte, après 40 ou 45 ans. Voilà. Merci.
Alors, il y a deux cas de figure. Une femme qui est en bonne santé et qui n'a pas de comorbidité, pas d'hypertension, pas de diabète, pas de soucis de santé, pas de surpoids, la grossesse va se dérouler strictement normalement dans la plupart des cas. En revanche, comme vous le savez, les comorbidités augmentent en fréquence avec l'âge et lorsqu'il y a des comorbidités, on rentre dans la catégorie des grossesses à risque. Par exemple, le diabète est bien plus fréquent au-delà de 35 ans déjà. Donc, l'hypertension artérielle est bien plus fréquente. La toxémie gravidique, c'est-à-dire cette espèce de rejet massif de la grossesse avec mise en danger de la maman et de l'enfant, sont plus fréquents. Donc, si on regarde les statistiques, oui, plus la femme est âgée, plus il y a de complications pour la mère et pour l'enfant. Si on regarde l'individu, quand une femme est en bonne santé et n'a pas de comorbidité, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va avoir une grossesse totalement normale.
D'accord.
Alors Claire vous demande si une grossesse tardive avec un don d'ovocytes d'une femme qui est plus jeune est-elle moins risquée qu'une grossesse tardive classique ?
Alors la réponse est double. C'est beaucoup moins risqué concernant le risque d'anomalie genre trisomie 21, puisque c'est l'âge de la donneuse qui fixe le risque. En revanche, il y a un peu plus de risques par ailleurs, parce que l'enfant n'a aucune communauté antigénique avec sa mère. Lorsque vous avez un enfant dans le ventre, il a la moitié de vos gènes, l'autre moitié viennent du papa. Cette communauté antigénique a une utilité, puisque les femmes qui ont zéro de communauté antigénique avec leur enfant, qui leur est totalement étranger au plan humain, ont plus de toxémie gravidique. Et donc, nous savons tous que quand nous gérons une grossesse issue d'un don d'ovocyte, nous devons être plus vigilants sur la tension artérielle, sur les deux œdèmes, etc.
Alors, Gaëlle vous dit, j'ai eu du mal à tomber enceinte avec mon premier mari. Quand j'ai rencontré mon nouveau conjoint, je suis tombée enceinte tout de suite, à plus de 40 ans. Ces histoires de compatibilité entre un homme et une femme, est-ce que ça existe?
Là aussi, vraiment. La réponse est double. La compatibilité, elle existe sûrement sur le plan psychologique. Pourquoi elle n'a pas eu d'enfant avec le premier? Pourquoi elle en a si rapidement?
C'est la magie de l'amour.
C'est pas médical, quoi.
C'est une magie qui a son sens. Il y a dans notre cerveau des petits fils transparents qui se tendent ou se détendent en fonction. Et ça, c'est pas maîtrisable. Et ça explique sûrement une partie du problème. Puis il y a une autre explication possible, c'est qu'il y avait un compagnon qui était plus fécond que l'autre.
Oui, c'est ça. Il aurait peut-être fallu faire un petit spermogramme.
Par exemple, pardon
d'être un peu scientifique, mais enfin, tout de même.
C'est tout simplement moins romantique. Vous
avez... On n'a plus de questions.
On n'a plus de questions. Si,
oui,
il y
en a.
Il y a beaucoup de femmes qui viennent vous voir à Neuilly.
De plus en plus, parce que ce n'est pas un phénomène qui va diminuer. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait mieux gérer, qu'on sait mieux prendre des précautions lorsqu'il y a des facteurs de risque. Je trouve que les femmes sont plutôt confrontées assez souvent à des hommes qui n'ont pas voulu d'enfants. Et le temps de se sortir d'une histoire amoureuse ou conjugale pour reconvoler, si j'ose dire, il s'est passé du temps. Je trouve que la responsabilité a beaucoup été mise sur le dos des femmes dans ces histoires de grossesse tardive, ce qui n'est pas le cas. Alors, je ne parle pas des familles recomposées, je parle des femmes qui viennent tardivement, d'abord parce qu'elles ont trouvé un compagnon tardivement, mais aussi parce que souvent, on a procrastiné ensemble par la volonté du compagnon.
Vous demande notamment, est-il vrai qu'il y a plus de grossesses multiples lors des grossesses tardives? Et si oui, pourquoi?
La réponse est oui. Le taux de gémellité, qui est globalement de 1%, augmente nettement avec l'âge. Pourquoi? C'est surtout des vrais jumeaux, donc des divisions d'un œuf fécondé en deux. C'est un ovule et un spermatozoïde qui donnent un embryon, lequel se divise en deux assez précocement. Et on pense que c'est dû à des petites anomalies des œufs. Parce que plus la femme est âgée, plus il y a des anomalies dans les œufs. Et que ces grossesses gémellaires-là seraient dues à un petit dysfonctionnement de l'ovule.
Mais après, tout peut très bien se passer quand même.
Oui, sauf que les vrais jumeaux sont des grossesses un peu plus difficiles. Parce qu'il y a plus de complications avec les vrais jumeaux qu'avec les faux jumeaux qui sont deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes et qui sont deux individus différents. D'accord. Alors que dans les vrais jumeaux, c'est exactement les mêmes individus. C'est un embryon qui s'est séparé en deux.
Devi a été suivie par une sage-femme pour sa première grossesse. Elle est de nouveau enceinte 10 ans plus tard. Elle a 43 ans. Elle vous demande si vous lui conseillez plutôt d'être suivie par un gynéco.
Si elle n'a aucune comorbidité et que tout va bien, la sage-femme qui la connaît peut suivre la grossesse. C'est peut-être pas mal, dans ces cas-là, d'utiliser le système en dupliquette. C'est-à-dire, une fois on voit la sage-femme, une fois on voit le médecin, il peut y avoir des facteurs de risque qui peuvent échapper ou ne pas être bien vus. Donc, c'est pas mal qu'on ait un examen cardiologique.
Ça ne peut pas être une mauvaise chose de
voir un gynéco pendant la grossesse. Non, on ne peut pas dire que la grossesse de la femme âgée ne soit pas toujours une grossesse sans risque. Et donc, s'il y a un facteur de risque, c'est bien que la sage-femme prenne l'habitude de travailler qu'un gynéco.
Et là, vous dites, j'ai eu mes deux premiers enfants très facilement. À 44 ans, je viens de rencontrer un homme de 10 ans de moins qui n'a pas d'enfant. Quelles sont mes chances de tomber enceinte naturellement?
Il faut être honnête et lui dire qu'elles sont très faibles. La plus grande difficulté de l'âge, c'est la baisse de fécondité. Et cette baisse de fécondité à 44 ans... même si elle a des cycles bien réguliers, il n'est pas sûr qu'elle ait encore des ovules fécondables. Et donc, les chances de grossesse, comme ça, globalement, bien qu'on ne puisse pas faire de statistiques parce que chacun est un cas particulier, sont de l'ordre de moins de 5% de chances de grossesse spontanée au-delà de 44 ans.
Pour sortir un peu du sujet du jour, la première fois où on vous a reçu dans la maison des maternelles il y a 6 ans, avec Marie, je me souviens, on avait animé avec vous un Facebook Live sur les conséquences du porno sur la sexualité des ados. Et vous étiez venu nous raconter qu'à Strasbourg, notamment, vous alliez dans des lycées pour parler avec les ados et vous disiez, malheureusement, on ne le fait pas assez. Est-ce qu'en 6 ans, les choses ont plutôt évolué dans le bon sens ou au contraire, avec TikTok, avec tout ça, c'est encore pire ?
On est en train de bouger vers le bon sens, en cela que la loi sur la protection des mineurs va être mieux respectée et qu'on va aider les parents à protéger leurs enfants. 100% des parents sont derrière moi, si j'ose dire, derrière
oui,
nous.
Ça,
parce que les protections parentales sur les ordinateurs ne suffisent pas pour protéger contre le smartphone du petit copain dans la cour de récréation. Donc, moi, je suis très favorable à ce que les fournisseurs d'accès Internet qui agissent sur le territoire français avec l'autorisation de la France soient soumis aux règles de la protection des mineurs, d'une manière ou d'une autre. Alors, ce n'est pas facile techniquement, mais on ne peut pas fabriquer des images très choquantes à Los Angeles et les faire voir à nos enfants impunément. Donc, il y a déjà eu plusieurs associations qui ont fait des procès pour obtenir que ces fournisseurs d'accès ou les sites Internet, mais qui sont plus difficiles à attraper, mais les fournisseurs d'accès, ils ont une autorisation de diffusion sur notre territoire. Donc, c'est comme si vous vouliez diffuser sur le trottoir des images pornographiques que vous distribuez aux enfants, ça se termine rapidement. Là, sur Internet, quand on est un milliardaire du net, on a le droit de faire des profits incroyables. Donc, c'est en train de bouger. Et je trouve que le président de la République, c'est mouillé sur cette question, et c'est bien ainsi, je pense que cette question va bouger.
Mais elle n'a pas encore bougé. Au niveau local, dans les écoles, etc., est-ce qu'on en parle ? Parce que c'est bien aussi de lutter contre les géants du net et tout, mais il faut aussi réussir à en parler avec les
L'âge de consommation, de première consommation a baissé, la quantité de consommation a augmenté, et ce phénomène est un phénomène de marché, parce que près d'un quart de la circulation des infos sur Internet, c'est de l'image pornographique. Avant, il fallait les chercher, maintenant, elles vous sautonnent. Vous faites Aline et vous avez un site pornographique. Donc, nos enfants ne sont pas à l'abri de ces images. Qui les choquent, qui les fascinent, qui les excitent, ce mélange-là crée de l'addiction.
Ouais.
On ne peut pas rester insensible au mal que l'on fait à nos enfants. Et si vous voulez que je vous prouve qu'on leur fait du mal, quand il y a un enfant qui est addict à 10 ans et qui consomme 3 heures par jour et qui ne peut pas détacher les yeux de l'écran, vous imaginez le mal que ça lui fait.
Bah ça, on est bien d'accord avec vous. Clémentine, pour revenir sur le sujet, nous disait, y a-t-il des examens ou un suivi particulier à faire en préconceptionnel si on souhaite lancer une grossesse à plus de 40 ans. Voilà. Quels sont les examens à réaliser ?
La consultation préconceptionnelle a de toute façon de l'intérêt, mais elle en a encore plus quand on a plus de 40 ans, parce qu'on peut éventuellement proposer un examen cardiologique pour voir si la femme est en forme. On peut éventuellement faire des examens d'évaluer la crasse sanguine, c'est la manière dont le sang coagule, parce qu'il peut y avoir des anomalies. Plus on avance en âge, plus on peut avoir des anomalies métaboliques, etc. Donc la consultation préconceptionnelle a du sens quand on a plus de 40 ans.
Et y a pas, on ne mesure pas une hormone qui va nous dire si on a la réserve ovarienne suffisante.
Mieux que l'hormone, c'est d'essayer d'être enceinte. Parce que mesurer des hormones, ça a une valeur prédictive assez faible. On peut se retrouver en train de dire à une femme « Mais non, vous n'avez plus aucune chance de grossesse » et elle revient le mois d'après enceinte. Et vous pouvez très bien lui dire « Mais madame, vos hormones sont tout à fait normales » et ça ne marchera pas. Donc la valeur prédictive des dosages hormonaux est bien moins bonne que d'essayer tout simplement.
Le risque de fausse couche est-il vraiment plus important si l'on est enceinte plus âgée ? Vous demande Laure et comment ça s'explique surtout ?
La réponse est oui. Le risque de fausse couche, mais aussi le risque de trisomie 21 et d'anomalie chromosomique augmente avec l'âge. Pour devenir aux alentours de 40 ans, il est de 10%. À 42 ans, il est de 20%. Donc, ce n'est pas des petits chiffres.
De risque de fausse couche ?
De fausse couche. Ouais. Donc, il ne faut pas se réjouir trop vite lorsqu'on est enceinte à 42, 43 ans. Et ça s'explique tout simplement parce que le fait que les ovules qui baissent en qualité avec l'âge, ils passent par un stade où ils sont encore fécondables, mais où l'embryon qui en résulte a des anomalies génétiques importantes. Et dans l'espèce humaine, on a un outil formidable qui est la fausse couche. C'est pour ça que l'espèce humaine est aussi belle. Notre système de fausse couche lit 3 milliards de lettres en quelques jours et trouve la faute d'orthographe et dit non, ça, ça ne va pas. Donc c'est complètement
excessif. C'est le fameux « la nature est bien faite » qui fait tant de mal aux patients qui l'entendent, mais qui est un peu vrai. Quoi.
Mais c'est pour ça qu'on peut rassurer les femmes en disant quand la grossesse évolue et qu'on passe le stade des fausses couches, ça veut dire qu'il y a eu une espèce de lecture des fautes d'orthographe qui a été super bien faite avant.
Moi, je trouve, je pense que ça, la nature est bien faite, c'est quelque chose qui peut, au contraire, apaiser les femmes qui ont... C'est toujours dur, une fausse couche, mais au moins, ça met un sens. Voilà.
Le taux de fausse couche... La fausse couche est d'autant plus dure que c'est une promesse non tenue.
C'est ça.
Et donc, il faut informer les femmes qui souhaitent faire un bébé plus tardivement que leur taux de fausse couche est élevé pour qu'elles ne se réjouissent pas inconsidérément avant la 12e semaine.
D'accord, c'est la 12e semaine.
La 12e semaine, parce que là, on va faire les tests de trisomie 21. La trisomie 21, c'est 1 pour 2000 naissances à 20 ans, c'est 1 pour 100 naissances à 40 ans, et c'est 1 pour 12 naissances à 46 ans. Donc, c'est une courbe qui fait comme ça, qu'on appelle courbe exponentielle. Et donc, tant qu'on n'a pas été rassuré complètement, on a fait d'énormes progrès sur le dépistage de la trisomie 21, il faut attendre qu'on ait ce résultat-là.
L'âge du père n'influe pas du tout là-dessus.
Si, et une femme âgée a plus de chances d'être avec un homme âgé, et ça multiplie les chances.
Merci beaucoup au professeur Israël Nizan, merci à Karine d'être venue ce matin dans la Maison des Maternelles. On se retrouve demain sur France 2 dès 9h30 pour la Maison des Maternelles, n'importe quand, sur les réseaux sociaux et évidemment en podcast là aussi quand vous le souhaitez. Ciao tout le monde.